l'église.
On va pas y passer la nuit.
Ah, mollo sur le destroy.
Juste à gauche de Saint-Af, au cul de l'église.
Et les gars, et mollo sur le destroy là.
On va pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va quand même pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va pas quand même y passer la nuit.
T'es bé où?
Au cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
À la bonne heure.
Au cul de l'église.
Et mollo sur le destroy.
Mollo sur le destroy.
Bon, on va pas y passer la nuit.
Ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra l'Arabia del Pueblo.
On est les seuls à pouvoir bousculer les choses.
On va pas y passer,
la nuit.
Au cul de l'église, mon gars.
Salut à toutes et à tous à l'écoute de Radio Saint-Afrique, la radio...
Sarcastique.
Ah, merci beaucoup. C'est bon, vous avez fini de tripoter tous les boutons qui sont à portée de vos mains.
Bah, c'est marrant, il y a les...
On est d'accord, cool, ok. Tout le monde nous entend, donc on arrête les conneries.
Ok.
Voilà, c'est donc... bien de toucher, d'appuyer sur les boutons, c'est bien.
Bienvenue dans la seconde émission au cul de l'église. Après une première pétaradante jeudi dernier, on ne se dégonfle pas en direct avec vous ce soir pour une heure de studio, avant de se décontracter à l'écoute du mix sans Dieu ni maître du Père Fred, dont la musique n'est pas une religion. Après l'intervention de Greg la semaine dernière sur l'environnement, avec pour exemple le barrage du Testet et sa ZAD, sujet soit dit en passant que Greg connaissait sur le bout des doigts, vous pouvez d'ailleurs retrouver un article de lui dans le numéro 1318 de Politis. Nous aborderons aujourd'hui les discriminations diverses et variées. Bienvenue à tous donc aujourd'hui avec nous Anselmo. Salut Momo, comment vas-tu?
Ça va bien, et toi Antoine?
Oui, ça va super bien, et qu'est-ce que tu nous as amené de beau cette semaine Momo?
Ah, j'ai fait une petite revue de presse, parce que je n'étais pas très inspiré, mais voilà, j'ai trouvé des trucs sympas quand même.
T'as trouvé ton papier et tout, c'est bon?
Ouais, non, j'ai pas perdu, je l'ai laissé sous le micro, c'est plus sûr en fait que dans la poche.
Yes,
ça dépend, décision. On pourra te le voler. Hein.
Ben ouais, je sais, mais je vous fais confiance quand même les gars, j'espère que j'ai pas tort.
Fred, justement, que vous venez d'entendre, qui ose enfin mettre les pieds à l'intérieur du studio. Fred, il nous a concocté, me semble-t-il, un petit papier sur un sujet aussi omniprésent que délicat. Fred, bonsoir. Tu veux bien nous en dire un peu plus?
Eh bien, ouais, carrément. Moi, j'ai visionné sur Internet une conférence de Edwy Plenel. Donc voilà, je vais vous parler de ça sur le racisme primaire et de bas étage qui est en train de remonter actuellement partout, quoi.
On a hâte d'entendre ça, Fred, ça va être super. On a un petit désistement, dernière minute quand même, c'est Rachidi, donc voilà, j'ai écrit, bien sûr, Rachidi, fidèle au poste, le pauvre Rachidi a eu un petit empêchement, donc malheureusement pour vous, on n'aura pas de compte en live habillé dans le studio de la radio, on va se faire une petite rediff, parce que le père Rachidi, il n'en est pas à son coup d'essai, donc on en avait quand même quelques-uns sous la main, on s'excuse pour lui, d'ailleurs, par avance.
Ouais.
Voilà, ensuite, Shams, cet énergumène agitateur, on n'a pas réussi à l'empêcher de ramener son grain de sel.
Je parasite tout, moi.
Comme toujours. Et c'est à travers une chronique comptée, je crois, que tu vas nous manipuler, Shams, ce soir. Bonsoir et bienvenue parmi nous.
Et bonsoir, Antoine. Bah écoute, toujours par des propos subversifs et...
Bien entendu.
Voilà, donc du coup, j'ai préparé une petite histoire, toujours entre l'histoire et le conte.
Gare à vos oreilles.
Voilà.
Loïc, enfin, évidemment, qui nous amène la touche locale. Il a plumé du poulet toute l'après-midi. Il est prêt pour nous faire marrer.
Ah oui, plumer des poulets. Alors, ça dépend des poulets. Des fois, il y a 5000 plumes, des fois 7000. Après, je les ai vidés aussi.
Au cul de l'église, bien sûr.
Bon appétit à tous.
J'ai bien mis les doigts au cul.
Quant à moi, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans ce foutoir, histoire de rendre le tout audible pour vous. Et je vous proposerai aussi un petit format sonore, intriguant autant que possible, qui s'appelle la prise hebdo.
On va pas y passer la nuit.
Au cul de l'église, mon gars.
Voilà donc, maintenant que les présentations sont faites, passons sur la grande scène, place à l'émission, avec Momo qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Momo, à toi. Toujours un petit...
Ouais, c'est à moi, c'était un petit délai, histoire de... Donc là, je fais signe aux techniciens, vous envoyez...
C'est une coutume avec Momo.
Et oui, toujours raccord, salut les kikis, salut les loulous, au cul de l'église, c'est toujours Radio Saint-Aff. Bien au chaud et nombreux, pas très catholiques ni cathodiques, mais sûrs de notre équipe. Bon, voyons voir ce qui se dit dans la presse locale. Alors, Jean-Luc Mallet a fait bosser un mec de la mairie chez lui, au Black. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Rien, mais c'est quand même trop cool, c'est vraiment la teuf, on se le tape plus à la mairie. Alors bon, big up tout le monde.
On a dit de l'oreille.
Oui, c'est vrai. Je voudrais juste dire que c'est un peu louche quand même. Et s'il y avait une petite affaire d'abus de biens sociaux là-dessus, déguisée en travail au Black.
Quand même pas.
Oh, tout de suite, Momo.
Bon, alors la prochaine fois, vous savez pour qui il ne faut pas voter. Et pas de trou de mémoire, s'il vous plaît. On épingle ça sur le frigo. Donc là, on passe à la deuxième page. Hein. Le moderne va devenir une maison de retraite. Alors, la modernité, c'est le senior, bien évidemment. Et oui, vaste public, des rentes et des bas de laine bien garnis. L'avenir est dans le vieux. Désolé pour les jeunes, mais ne vous inquiétez pas. Un peu de patience et vous y serez. Et puis, pour les jeunes... Donc la mort est une web-série où les acteurs ont ont, je cite, la sensation de faire quelque chose de bien. Ma foi, c'est un point de vue, hein, et désolé pour le coup de main, mais je ne peux pas médire et gérer le décor. Et à vrai dire, je préférerais médire juste par flemme et par peur de la mort. Bon, en fait, c'est que j'avais dit que je voulais bien filer un coup de main à Anderandera pour la déco de la mort et que je l'avais pas fait et ils n'ont pas appelé non plus. Enfin, voilà. Du moins, si vous n'êtes pas dans ma tête, je doute que vous ayez compris quelque chose à cette réplique. Il y avait plus de public que de RG aux 5 ans du lieu dit, au caveau, et on en est bien content.
T'es sûr de ça ? Ils étaient pas en civil ?
Je sais pas, enfin bref. C'était un peu fort, non ?
Ouais.
Hein ? Tu dis quoi ?
Un peu.
Hein, c'était un peu fort. Hein.
Bigou de platine.
Donc voilà, bon, j'espère que tu nous entends. Voilà, monte le son au pire. Voilà. Midi libre, déjà il y a que des keufs en première page.
C'est des poulets, pas des keufs.
Ah oui, excuse-moi. Libre à midi, beau gosse, bon pas tous bien sûr, hein, l'uniforme, moi ça m'excite. Mais faites pas comme nous, prenez des meufs. Moi je préfère quand c'est elle qui pose les PV, ça passe quand même mieux. Et déjà que Mio, ça faisait pas rêver, alors là... Bref, des caméras, c'est la voix. Hein. Déjà qu'ils étaient pas forts, alors s'ils matent que des séries et qu'en plus c'est eux qui les tournent, on n'est pas sauvés là. Midi libre encore, une semaine pour l'emploi. Je sais pas si ça va suffire une semaine, mais ça fait des animations pour les chômeurs. Hein. Bon, sinon, si vous voulez, un petit plan, là, derrière les fagots, il y a des champignons et des cèpes qui sortent, donc je pense que vous avez mieux à faire que d'aller à cette semaine pour l'emploi. À bon entendeur. Quant aux filles, elles viennent pour mon annif à 21h à la salle des fêtes de Saint-Afrique, c'est le 18 octobre, hein, je le rappelle. Attention, cabaret musical Dreams Girl.
Ah, rien
ça
que ça.
Veut dire... fille de rêve.
Hein. Eh ben on ne se refuse rien.
Oui. Avec Shanna,
Luna et Madison, organisé par Saint-Af Dynamique, ça fait rêver mon gars. Ça va baver, ça va bander, ça va fantasmer.
Ça va mouiller.
Mais le hic, c'est que c'est des travelots. Mais...
Ça va pas mouiller.
Ça va pas mouiller. Alors. Ouais.
Bon, n'y pensez pas, faites comme si de rien n'était, rincez-vous l'œil et puis bah, c'est une bonne soirée. Nous, c'est Radio Saint-Af, et donc on était dans le Midi Libre, je cite, « Radio Saint-Af redresse sa situation financière. Entre les allocs de l'autre handicapé, les têtes de braqueurs et des djihadistes, tu m'étonnes, faut juste se donner les moyens. Bon, pour le progrès, je cite, « Radio Saint-Af continue à aller de l'avant. » Étant donné que nous sommes au cul de l'église, foncez les gars! Ouais ah.
Merci beaucoup Momo pour cette revue mais pas corrigée de la presse. Ça ne fait que commencer, restez avec nous pour retrouver Fred et son papier. Mais avant, une petite pause s'impose avec un artiste qui mériterait plus de reconnaissance. Il est joueur de oud et chanteur tunisien. Je vous propose d'écouter un titre qui arrive à la fin d'un album intitulé Electric Soufi, sorti en 2001. Un album aux influences soufi mais aussi jazz et d'improvisation. Le titre s'appelle Al Ajal. C'était Al Adlaj, un titre de l'album Electric Sufi de Dafur Youssef. Mais sans plus tarder, je laisse le micro à Fred.
Hey, attends, j'ai une petite connerie à dire. Là, quel est l'animal le plus rapide au monde ? Eh bien, le poulet, quand il traverse les favelas.
Ze pequeño. Oui, merci Loïc.
Voilà. Plaisir.
Donc Fred,
ouais, voilà, c'est parti.
Faut t'imposer Fred, n'hésite pas.
Ouais, je vais lui mettre une claque de toute façon. Il est en face de moi là.
On va voler les plumes.
Attention avec les micros.
Oui, ils sont bien attachés. Alors, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Je me réjouis de faire mon premier papier sur une radio déclarée d'intérêt public. Quoi Antoine ? Radio Saint-Af n'est pas déclarée d'intérêt public ? Ouais, si, t'inquiète pas. Ah si, c'est bon.
Ah, oui.
Bon, sinon ça allait pas tarder avec la bande. Bon, donc je profite donc de ce premier papier pour vous parler d'un livre écrit par un vrai journaliste, comme on n'en voit pas aux 20h. De si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc j'ai nommé Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, essayiste. Donc son dernier livre, Pour les musulmans, a motivé une conférence à l'Institut du monde arabe à Paris. Très intéressant, cette conférence, je l'ai visionnée donc. Et avec lui, il y avait Elias Sambar, le représentant de la Palestine à l'UNESCO, ouais. Essayiste et poète, donc arabe. Et aussi, je vous en parlerai tout à l'heure, il y avait une troisième personne. Donc voilà. Donc ce livre synthétise un parallèle entre un article de Zola sur l'affaire Dreyfus et la stigmatisation des juifs du début du XXe siècle suite à cette affaire, avec l'islamophobie actuelle. Donc il fait un parallèle entre l'antisémitisme et l'islamophobie maintenant. Donc cette islamophobie est incarnée en bas de l'échelle des intellectuels par le polémiste Zemmour, que tout le monde connaît, et en haut du panier par l'académicien Alain Finkielkraut. Tous deux sont passés sur le service public à France Inter.
Que lui, personne ne connaît.
Alain Finkielkraut ?
Aussi.
Si, il est connu. Si, c'est un vieux académicien.
Désolé pour ma culture médiocre.
Ouais, mais regarde la télé un peu, quoi.
Bon, après, t'as pas vraiment loupé grand-chose, Antoine.
Non.
Excuse-nous, Fred.
Non, pas de soucis. Et donc, tout ça sur le service public à France Inter, en l'occurrence. Donc, comme quoi, il y a du niveau... Enfin, ça monte pas mal sur France Inter. Donc, ce racisme affiché qui pousse le Front National et fait reculer les progressistes qui ne votent plus. D'ailleurs, c'est un trait d'union avec Rachidi qui, la semaine dernière, nous parlait que le pire n'est pas d'entendre les mauvais, mais c'est de ne plus entendre les bons. Ouais, donc, nous expliquer ça.
D'ailleurs, on entend.
Je crois que les termes, c'était le pire, c'est pas le mal des gens, mais le silence
des gens bien.
Des gens bien, voilà. Donc, voilà. Alors, comme le dit Edoui Plenel, nous traversons une crise européenne.
Vous aussi ?
Oui.
On voudrait que les gens se sentent impliqués.
Oui, ouais. Oui. Traversons, vous traversez, ils traversent.
À vos péchés.
On ne va pas conjuguer, on n'est pas en français.
Regardez à droite, à gauche.
Donc nous traversons une crise européenne, d'ailleurs elle est mondiale. Il cite Antonio Gramsci, donc c'est un écrivain italien communiste du siècle dernier, qui disait « La crise, c'est quand le vieux reste et le jeune tarde à venir ». Donc entre ces deux moments, entre que le vieux ne veut pas partir et que le jeune ne veut pas rentrer dans la vie, il y a un vide, et ce vide est propice à une guerre des mondes, parce que du coup, quand il y a un vide, la nature n'aime pas ça, donc il faut le remplir, et on le remplit souvent avec le pire. Donc, cette guerre des mondes entre la vieille Europe conservatrice et les jeunesses arabes frustrées, elles sont frustrées, ces jeunesses arabes, par quoi ? Eh bien d'abord par le colonialisme qui a confisqué leur propre développement. Ensuite, par les dictateurs mis en place par les Occidentaux pour contrer les démocrates qui émergeaient de la décolonisation. Enfin, elle est frustrée par l'hypocrisie de l'assimilation. Ce mot qu'on entend actuellement
partout.
Par Zemmour et toute la clique, ce mot est colonialiste. Vaudrait mieux parler plus d'intégration avec des différences et se rassemblant autour de nos points communs. On est tous différents et ce qui fait la force d'une communauté, pluriel, c'est de se rassembler sur ce qu'on a en commun, quoi. Et on a beaucoup de choses en commun avec le monde entier. Déjà, on vit sur la même planète.
On a des bras, des jambes.
Voilà. Et on vit sur la même planète. Hein. Il n'y a plus de barbares extérieurs comme il pouvait y avoir à une certaine époque.
On ne sait pas, soi-disant, d'où ils viennent.
Et non, maintenant, on sait que le monde est fini.
Et on a fait le tour.
Actuellement, un colonialisme nouveau est à l'œuvre. Donc, par la finance internationale, les bombes en Israël, le multinational qui pille les matières premières et les religions expansionnistes. Alors, oui, donc les musulmans, selon bouc émissaire, comme les juifs à la fin du 19e siècle, souvenons-vous de l'horreur de la suite avec l'Holocauste. Les Roms et les homosexuels sont aussi dans le collimateur des racistes. Edwy Plenel parle aussi du chemin qui a été fait, quand même, malgré tout ça. La France est les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire très, très, comment on dit, melting pot.
Nous les haïssons, quoi.
Un peu. Non, la France est les États-Unis d'Europe. Ah.
Construite nous donc... les haïssons quand même.
EEST ou
ouais, EEST, ouais. Ah, bon. Construite, mais c'est Edwy Plenel qui dit ça, et bon, voilà, il développe en disant qu'elle a été construite par les immigrés de l'intérieur, d'abord avec les Bretons, les Auvergnats, qui sont montés à Paris et qu'on rejeté par du racisme régional, puis par les immigrés européens, comme les Italiens, les Portugais et les Polonais. Maintenant les barbares viennent de plus loin, donc musulmans, etc. Nous sommes métissés, ça c'est un fait. Donc la France est métissée depuis très longtemps. Bon, bref. Ensuite, il parle de la loi de 1905, très importante, qui sépare les églises de l'État et la laïcité. La loi de 1905 qui sépare les églises de l'État et la laïcité, et qui parle de laïcité. Mais cette laïcité, elle commence à devenir aussi intégriste, quoi. Il y a même des laïcs intégristes maintenant. C'est-à-dire que la vraie laïcité, ce n'est pas d'être contre les religions, mais plutôt une incitation à tolérer toutes les religions. Elles n'ont pas besoin de se cacher, elles peuvent se montrer. La vraie laïcité, c'est de les tolérer, tout simplement, quoi. Plenel insiste sur l'empathie après, donc ce sentiment qui est lié avec ça. L'empathie, donc ce sentiment qui empêche de faire aux autres ce que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Donc l'empathie est pour moi la base de toute liberté. Plenel parle aussi des médias, ce pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir, il y a un vide dans notre constitution, et j'espère que la 6ème République, que l'on appelle avec beaucoup de gens à arriver, traitera ces médias comme ils le méritent, c'est-à-dire que c'est un réel pouvoir. Donc ces médias qui sont dans le buzz, dans l'instant, et qui simplifient la complexité du monde. Je vais citer Hitler. Hitler disait « Je ne suis pas un dictateur, j'ai simplifié la démocratie ». Voilà, les médias, à force de simplifier, eh ben, ils vont tuer la démocratie. La démocratie, elle est complexe, et par l'associatif, ce n'est pas qu'en regardant la télé qu'on peut participer à la démocratie. Il faut s'y impliquer.
Et puis ça range pour décrédibiliser toutes les chances de réponse, quoi.
Voilà. Donc à méditer. Donc je finirai par dire sur les identitaires, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans ou autres, nos identités appartiennent moins au passé qu'à la construction de nos identités futures. L'identité, elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas construite. Nos vraies identités, c'est ce qu'on doit construire dans le futur avec nous tous, parce que on va pas construire des murs entre nous, quoi. On en a déjà fait et ça n'a jamais marché. Donc voilà, à lire pour les musulmans d'Edwy Plenel, et à voir sur internet la conférence à l'Institut du Monde Arabe avec Denis Siffer. Donc oui, voilà, il y avait un troisième, c'est lui, Denis Siffer, le rédacteur en chef de Politis, qui était avec eux, et Elias Sambar, donc. Et voilà. Maintenant, on va se reposer tranquille avec un petit morceau de La Rumeur, un groupe de rap hautement engagé.
De la génération Afred.
Voilà, que j'écoutais. Donc c'est un vieux groupe. mais qui est toujours qui tourne toujours. D'ailleurs, il y a énormément de choses à dire.
Et puis il y a un concert tout bientôt.
Ouais, tout bientôt, le 5, 6, 7 novembre, il me semble.
Dieu, ça fait un sacré set, ça. Ouais. Le 5, 6, 7, ils jouent, les mecs.
C'est où ?
C'est un festival.
Je sais plus exactement. Il faut regarder dans
c'est
le.
C'est pas très très loin parce que c'était indiqué dans le SLR.
Ouais.
Donc, sur la région.
Ça doit être sur la région.
On vous 5, 6, 7 novembre.
Bientôt. C'est ça.
Donc on vous en reparlera.
Oui.
Donc avec le titre « Le cuir usé d'une valise qui parle de l'immigration ».
La rumeur.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade contrastant ses souvenirs. Tarbé d'un embarcadère ensoleillé au départ, une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar, celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main frappant le flanc de cette valise retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à cingler leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elles gardent en elles, ces séquelles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure un fils parti gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, plus partie de la soufrière, en portant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles. Pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, de près d'un quart de siècle mon aîné. Dire qu'en 62, des ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par des siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre, il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. Qu'elle n'est pas venue en vain.
Vous êtes toujours à l'écoute de Au cul de l'église sur Radio Saint-Aff. Merci Fredo pour ce magnifique papier documenté et comme toujours, quel appui musical, mais qu'on vient d'entendre, La Rumeur, rappelle-nous le...
La Rumeur, donc, avec le cuir usé d'une valise.
Le cuir usé d'une valise en
2000. C'est un groupe, La Rumeur, c'est ça ?
Oui.
C'est un groupe. Voilà, donc merci beaucoup pour ton papier, un débat qui mérite d'y réfléchir, d'y réagir aussi. Alors, tiens,
ouais, bah, je voulais juste rajouter, en fait, c'est vrai que le sujet est vraiment d'actualité et que là, on est dans une situation où je trouve qu'on a tendance à présenter l'étranger comme quelqu'un vraiment de haineux qui arrive là pour coloniser, enfin pour reprendre un peu sa revanche pour se réaccaparer nos ressources, nos travails, ouais, etc. Et moi, je trouve ça vraiment...
dommage.
Complètement faux, déjà, parce que l'étranger, d'une certaine manière, l'étranger est toujours poli. L'étranger ne connaît pas les insultes. L'étranger, en fait, il arrive toujours en paix. Et quelqu'un qui va dans un autre pays, forcément, se retrouve toujours dans une situation, je dirais, de... même s'il sort d'un contexte difficile, de calme, en fait, où il recherche en quelque sorte une sérénité, enfin une
paix. Un nouveau départ, quoi, déjà. Quand tu fais un nouveau départ, tu vas pas à coup de haine, quoi.
Comme un bourrin, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'on nous présente un peu le truc... Dans tous les cas, on sait très bien comment ça va se passer. Si jamais telle idéologie se répand par chez vous, vous vous rendez compte. Et ben non, on se rend pas compte, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Et on a le droit peut-être d'être curieux aussi de voir qu'est-ce qu'on nous propose. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui ont une meilleure idée ? Maintenant, on tolère toutes les religions, ça veut dire aussi qu'on est prêt à entendre les bonnes idées qui émanent de l'une ou l'autre. Et finalement, ces médias, ils ne nous proposent pas de découvrir des nouvelles idées. Parce que...
Et ouais, du coup, mais quand tu as parlé de religion, de passé et de futur, du coup, ça m'a rappelé une phrase que j'ai entendue au concert du trio de Joubran, qui est venu à Millau dans le cadre de Millau en jazz.
Oui, les Palestiniens, les trois joueurs de oud.
Les trois joueurs de oud, issus d'une famille de luthiers depuis X générations, et qui sont quand même assez, je pense, engagés, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paroles dans ce qu'ils font. Les notes suffisent à faire comprendre toute l'émotion qu'ils portent.
Ils font chialer les instruments.
Et ouais, carrément. Carrément. Et du coup, à un moment, je crois que c'est Samir Joubran qui a pris la parole et qui parlait de la tradition, du coup, qui parlait de sa famille. Et à un moment, il a dit une phrase qui m'a pas mal touché, qui disait que la tradition, c'est pas ce que les générations antérieures ont fait pour nous. Et pour nous rappeler, c'est ce que nous, on fait aujourd'hui pour les générations futures. Et c'est juste une vision différente de la chose, où c'est vrai qu'on se concentre toujours sur le passé, et où en fait, où il recadre en fait la chose sur le présent. Ouais. Et où en fait, c'est vrai qu'on a toujours tendance à placer les religieux comme un vieux truc du passé, ou avec des idées barbares complètement, et d'un autre temps. Et au final, ce que tu disais, ouais, c'était très pertinent.
Je pense que c'est niqué pour le racisme, parce que maintenant, on est tous métissés, quoi. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent nous faire bouffer et comment, mais c'est niqué, les gars, quoi. C'est trop tard, vous arrivez à la bourre.
On n'est pas tous français, voilà, à 100%.
Quoi, c'est bon.
Ouais, fallait pas lâcher à Alésia, hein, c'est mort.
Le Gaulois en studio. Voilà, je vous propose qu'on passe à un bout à la suite, parce qu'elle retourne aussi, mais c'est un sujet super intéressant, c'est clair. Si ça tient à cœur à certaines personnes, pas hésiter à vous signaler, préparer des trucs, on est prêt à en reparler. C'est un sujet, à mon avis, qui n'a pas fini de s'épuiser, vu l'actualité.
Marine, si tu nous écoutes, si tu veux venir dire un mot, d'ailleurs, on manque de filles dans le studio.
On a dit des filles, Momo.
Non, plutôt sa fille ou sa nièce. Là.
Ah ouais, tu les connais, toi.
Maréchal. Non, comment elle s'appelle, Maréchal?
Marion Maréchal. Merci.
C'est super sexy.
Arrêtez, j'adore. Stop, quoi. S'il vous plaît, vous allez abîmer les antennes avec vos âneries, d'accord. Donc on passe tout de suite à la suite, justement, avec Rachidi, notre regretté Rachidi, qui n'a pas pu être là. Donc on va vous diffuser.
Regretté, il va revenir.
Bien sûr qu'il va revenir. Non,
mais il est regretté.
Il ne soit pas là aujourd'hui.
Ce
soir. Rachidi, un conte.
Que la nature ne nous laisse pas dans la joie et puis nous attrister. Que la joie continue. Que les douleurs soient des leçons qui nous servent à évoluer dans la vie. C'est pas le premier à venir dans le monde qui est obligatoirement le premier à voir l'éléphant. Non, c'est celui qui se promène dans la brousse qui voit l'éléphant. On parle pas de l'éléphant du parc, puisque avant il n'y avait pas de parc. Eborokoto wa nyina, eborokoto ye. Eborokoto wa ndani, eborokoto ye. J'ai pris ce compte chez une fille. Une petite fillette qui n'aimait pas dormir la nuit. Elle s'appelait Bieta. Pendant que les amis de Bieta se réveillent matin, c'est en ce moment que Bieta s'en va se coucher. Pendant que les amis de Bieta sont dehors, Bieta est dedans. Pendant que ils sont dedans, Bieta est dehors. Et un jour, les amis de Bieta se sont amusés tard. Et après, ils sont rentrés. Chaque maman est sortie appeler son enfant. Venez, il commence à faire tard. Vous allez vous rincer et puis vous coucher. Allez-y, le griot vous attend. Il va vous raconter une histoire avant que vous ayez au lit. Les enfants sont allés. Le griot les a raconté une petite histoire. Et chacun s'est approché vers la case de sa maman pour aller dormir. C'est en ce moment que Bieta se réveille du sommeil, lave son visage et elle mange un peu et elle sort au bord de la grande voie pour s'amuser toute seule. Trongelengle tronge, atrongelengle tronge, nebe katrunge, bede katrunge, atrongelengle tronge, tutrongelengle tronge. Benda, Bieta tout seul, elle chante comme ça et elle s'amuse. Et un jour, il y a une femme génie qui avait perdu son bébé. Donc, le corps du bébé était dans ses bras. La femme génie pleurait et elle passait. Deni paye kanawa, Deni paye kanawa, Deni yo paye kanawa, Deni yo paye kanawa, Deni yo paye kanawa, Deni nyuma e kanawa, Deni yo paye kanawa, Deni yo paye kanawa. Elle chante, oh mon enfant, voilà maman, faut pas partir. Enfant, voilà maman, faut pas partir. Donc elle vient trouver Bieta qui est au bord de la route en train de s'amuser. La nuit, le jour appartient aux humains et la nuit appartient aux esprits. Quand la vie était dans sa nature, la nature avait des vivants aussi qu'on ne voyait pas. Plus les humains ils s'approchent, plus il s'éloigne. Elle vient voir Pieta, elle prend le corps de sa fille, elle tape sur le dos de Pieta, ça devient une bosse. Ça devient une bosse sur son dos. Ah, Pieta retourne se coucher et elle a un gros truc derrière son dos où elle ne sait pas comment s'arranger avec ça. Elle ne peut pas se coucher avec, elle ne peut pas marcher avec, c'était trop lourd pour Pieta. Pour bouger, il fallait que Pieta force. Pieta est restée couchée. Sa maman s'est dit, ah, mais pourquoi Pieta est rentrée tôt aujourd'hui? Elle est sortie, elle n'a pas trop duré dehors et elle est rentrée. Ah, ça m'étonne, sûrement il s'est passé quelque chose. La maman s'approche, elle regarde et trouve que Pieta avait un gros truc derrière son dos. C'est comme une deuxième tête. Ah, ma fille a eu un problème. La maman crie. Puisque en Afrique, s'il y a un problème grave, il faut une femme pour crier. Tout le monde, ça cale les murs, ça court dans les champs, ça court dans les fermes pour arriver chez la maman de Pieta. Si ton voisin a du feu chez lui, si la cour de ton voisin est en train de brûler, il faut aller le secourir. Fais de ton mieux pour apporter ta contribution, parce que si le feu finit chez le voisin, le feu peut passer, le mur est venu chez toi. Il faut combattre la merde quand ça est de loin. Si tu attends que c'est la merde de l'autre, la merde va finir avec l'autre et la merde va trouver une autre personne pour emmerder. Voilà pourquoi quand ça crie, tout le monde vient pour éteindre. Tout le monde vient pour aider. Tout le monde amène ses idées pour apporter. Chacun apporte ce qu'il a. Arrivé, la maman de Pieta dit, voilà ma fille qui ne dort pas la nuit, qui dort le jour. Voilà ma fille. Pendant que les amis sont couchés, elle est dehors et elle s'amuse. Et voilà maintenant, elle m'a ramené un gros problème. Regardez son dos. Ouh, quand les gens ils disent, ouh, non, waouh, ça c'est quoi ça? Ouh, ça crie, les gens ont eu peur. Ils sont allés voir le griot qui était le tradit praticien du village. Oh, Baba Soumani, na andeme. Le griot, il arrive et il dit, qu'est-ce qui se passe? On montre ça au griot, le griot dit, bon, j'ai la solution. Qu'est-ce qui l'a arrivé? Comment ça s'est passé? Ils l'ont tout expliqué et le griot dit, ok, j'aurai la solution. Cette nuit, quand les autres vont aller au lit, Pieta, tu viens, je vais t'amener au bord de la route et je vais jouer. Je vais jouer, toi tu vas danser. Je vais jouer, appeler l'esprit de la nature. Je vais appeler l'esprit de la forêt et je vais appeler l'esprit des génies. Lui demander ce qui se passe. La nuit tombée, il amène. Il amène Pieta au bord de la route. Et il s'est mis à jouer. Et Pieta, elle a dansé. Donc, le chef des génies a appris qu'il y a un griot qui chante et qui est en train d'appeler l'esprit. Donc, il faut que lui, il aille le voir. Il s'approche, il voit que c'est un griot qui chante et il y a une fille qui danse. Il est parti. Donc, et il a ramené tous les autres génies de venir danser autour de cet enfant. Parce que c'est leur musique qui se joue. Ils se sont mis à danser. Les génies dansent et le griot dit non. Personne ne peut danser tant qu'il n'a pas de bosse sur son dos. C'est les bossus qui peuvent danser ma musique. Seuls les bossus. Donc après, il y a un petit génie qui est venu, qui est capricieux, qui dit, maman, moi, il faut que moi, je danse. Il dit, non, le griot dit qu'il faut que tu ailles une bosse sur ton dos avant de pouvoir danser. Donc voilà, toi, tu n'as pas de bosse, tu ne peux pas danser. Celui qui essaie de danser, le griot dit, non, personne ne danse. Ceux qui ont des bosses qui peuvent danser. Ah, du coup, il y a la maman du petit génie qui est têtue là. La maman s'est approchée et prend la bosse sur le dos de Bieta, met sur le dos de son enfant et l'enfant s'est mis à danser. Donc le griot s'est mis à chanter maintenant. Bamba ise mani Bieta, bamba ise mani Bieta, ikuru bimina obe donke, ikuru timina ote donke, yendege yendege Bieta, kuru zendege zendege Bieta. Yendege yendege Bieta, kuru zendege zendege Bieta. Bamba ise mani Bieta, bamba ise mani Bieta, ngukuru bimena obe donke, nikuru timena ote donke. Yendege yendege Bieta, kuru zendege zendege Bieta. Yendege yendege Bieta, ngukuru zendege zendege Bieta. Qu'est-ce que le griot dit dans sa musique? Il dit Bieta, commence à courir. Bieta, soulève tes jambes. Ceux qui ont des bosses qui peuvent danser, ceux qui ne sont pas bossus ne danseront pas. Bieta, soulève tes jambes. Ceux qui sont bossus dansent, ceux qui n'ont pas de boss ne dansent pas. Donc le griot disait ça dans sa chanson. Donc Bieta, cette chanson codée, Bieta a compris. Bieta dit, ah, papa griot, moi j'ai envie de faire pipi. Bieta est parti. Donc, le petit génie danse et après il était fatigué. Il dit, maman, maintenant, voilà, tu peux enlever le truc là, puisque moi je suis fatigué. Il tourne, il n'y a pas Bieta. Il dit, ah, griot, où est la fille qui dansait là? Je vais lui remettre son truc. Ah, le griot dit, ah, je la vois pas, il faut que j'aille la chercher. Attendez-moi, je vais aller la chercher. Le griot est parti. Et il allait rentrer, fermer sa porte, se coucher. Donc les génies ont attendu. Parce qu'ils ont promis de laisser la journée pour les humains et la nuit, ça les appartient. Donc quand le soleil a commencé à se lever, les génies sont partis. Voilà comment les griots a guéri bien tard. Les enfants, quand on dit qu'il ne faut pas trop rester dehors longtemps, c'est comme ça. Parce que quand tu ne suis pas les autres, on dit... Le brebis qui s'éloigne des autres se fait toujours manger par les loups. Et en Afrique, on dit la chèvre qui quitte les autres toujours se fera manger par la hyène. Donc ça a été toujours comme ça. Et Rastafari, c'était Bieta compté par Rachidi Yomba.
On ne va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Bravo et merci Rachidi. De loin, encore des propos tellement toujours sages de la part de Rachidi. Ça donne à réfléchir. Tout de suite, retour d'Afrique pour retrouver les saints africains. Avec ce petit format, la prise hebdo que je vous ai concocté cette semaine. On va essayer de s'y tenir à chaque fois. Enfin, je vais essayer. Donc le principe, c'est que je vous fais partager un bout d'enregistrement délire survenu au cours de la semaine. Soit donc de type interview, comme aujourd'hui, on y vient tout de suite, soit un bruit ou un son étonnant. J'ai mis au point un petit générique pour entrer en matière, on l'écoute tout de suite si tu veux bien, Jean.
Avec la prise de la semaine...
Mais monsieur, où est allé votre penchant ?
Comme je n'ai que ça.
Avec la prise de la semaine...
Faites-vous plaisir.
C'est donc un phoneur que je vous propose cette fois, un interview par téléphone, interview menée par Rodray avec tout le professionnalisme que vous lui connaissez bien. Mais vous allez voir, on n'a pas tout gardé. Voilà donc l'interview presque originale.
Allô, Dominique Datola ?
Oui.
C'est Audrey Barat à Radio Saint-Afrique.
Audrey.
Fric, ça va ?
Ouais, ça va bien. Alors attends, je vais me mettre dans un endroit.
Est-ce que vous m'entendez bien là ?
Très bien, mais on va faire plusieurs essais. C'est où avec l'ampli, sans l'ampli ?
D'accord.
Ouais.
Bon alors.
Ouais, une gaillette.
Voilà, du coup, là, on l'entend s'éloigner. Quelqu'un de très sérieux, comme vous voyez. Et en fait, Audrey poursuit son interview. Le mec répond à des questions donc super sérieuses, jusqu'au moment où bon, personne n'est à l'abri d'une petite escarmouche. Vous allez voir, j'entends arriver derrière moi, écoutez, ça donne ça.
En fait, le chevalier de la barre était un jeune noble désargenté qui... Attends, Claude. Non, stop. Oh, oh, pas de bruit. Je reprends.
Oui, oui, pas de souci.
Pas de souci, bien entendu, tout le monde a le droit de s'énerver un petit coup de temps en temps. Mais du coup, j'ai pas pu résister à vous monter un petit truc de ce genre.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était ce jeune homme ?
En fait, le chevalier de la barre était un jeune noble désargenté qui... Attends, Claude. Non, stop. Oh, oh, pas de bruit. Je reprends.
Oui, oui, pas de souci.
Le dictionnaire philosophique Alors, pardon. Le chevalier de la barre était un schnappant de sa mort. Et la France... Attends, on reprend.
Ouais, et la France. La France.
Pas de bruit.
Et la France.
Pas de bruit. Oh. Qui... Attends, Claude. Non. Attends, oh. Oh. Pas de bruit. Oh. Pas de bruit.
Et voilà, oui. Petite anecdote, juste histoire de vous faire poler. De notre côté, ça a plutôt bien marché. Ouais. Vous écoutez toujours au cul de l'église sur Radio Saint-Eph et c'est à Shams que je passe le relais tout de suite pour clôturer cette émission. Exactement, moins de bruit, Shams, à toi.
Allez, Shams, je prends le micro. Oyez, brave Jean, oyez, écoutez-moi, écoutez donc les anciennes légendes des alchimistes où la recherche constante de savoir nous emmène jusqu'au plus profond de la matière et même au-delà. Le geste amène l'outil. Mais seul l'outil enseigne. Depuis longtemps, nous avons oublié les racines mêmes de ces gestes. L'industrie a divisé, séparé les tâches, pour grandir et se diviser de plus en plus. Après le taylorisme, l'endoctrinement, la course à la productivité, le séquençage des tâches a fini d'achever les dernières guildes, et le savoir s'est perdu. Au point qu'aujourd'hui, ce sont les usines qui essayent de retrouver ce savoir perdu en vain. Ainsi, tous ont oublié celui qui fabrique l'outil et comment s'en servir. Tous ont oublié le pouvoir du forgeron, de l'alchimiste. Celui qui fabrique les outils, mais aussi les armes. Celui qui peut élever un peuple comme l'anéantir. Celui qui est à la base de la technologie, de la science occulte du feu qui transcende la matière. Celui qui possède l'art de fusionner les métaux. Chimia en grec, alchimia en arabe, l'alchimie, la fusion. Car le forgeron doit utiliser tous les éléments pour maîtriser le métal. Tout d'abord, j'ai arraché le minerai et le combustible à la terre, puis d'une simple étincelle, invoqué un brasier. J'ai amené l'air pour orienter le feu et ajuster la température, et enfin, j'ai eu besoin d'eau pour transformer l'acier en le refroidissant et ainsi modifier sa structure moléculaire. Ainsi est la science du feu, la science de ce que l'on sait ne pas maîtriser. J'ai dit que j'orientais le feu, mais en aucun cas je le maîtrise. Car le feu, sous n'importe quelle forme, finit toujours par avoir raison de nous, dès lors que nous sommes assez stupides pour croire que l'on peut le soumettre à notre volonté. Le forgeron a vite compris que cette capacité était transmise intrinsèquement à l'acier. Une fois que le premier forgeron a dispersé ses outils aux quatre vents, il semble que le terrible résultat ait des conséquences encore aujourd'hui. Le premier des forgerons était donc le premier des alchimistes. Un jour, il décida de distribuer des couteaux à tout son village. Il donna à chacun des directives dans l'utilisation de ceux-ci, tantôt pour couper, éplucher, percer. Les jours passèrent et les villageois, fiers de leurs outils, travaillèrent de concert pendant des années. Le fait est qu'un jour, sur un grand chantier, un ouvrier se vanta d'être le meilleur travailleur, n'ayant de cesse de se mettre à la tâche pour montrer sa valeur, justifier son salaire. Enfin, il expliqua à ses collègues sa manière d'utiliser son outil, qui le permettait de travailler mieux et surtout plus vite. Et certains adoptèrent ses propos, faisant de même. Mais d'autres, moins convaincus, travaillèrent différemment. Seuls ou en équipe, bref, rapidement, un climat haineux s'installa. Et une poignée de personnes, là du zèle et de la compétition, déclenchèrent une rixe à force de dialogues stériles. C'était chose habituelle de se battre lorsque l'on avait un différend, mais cette fois, il y avait un élément supplémentaire qu'il n'y avait pas d'habitude. Et la bagarre se finit vite en bain de sang, lorsque l'un d'eux eut l'idée d'utiliser une des lames du forgeron. Après l'incident, plusieurs groupes s'accusèrent mutuellement d'avoir jeté la première pierre. Jusqu'à ce que, finalement, tout le monde semble d'accord pour accuser le fabricant d'être à l'origine de cet effroyable événement. Ils s'armèrent donc, tous, de leur couteau pour aller demander à leur fabricant de payer le prix du sang. Et c'est en invoquant la loi du talion qu'ils coururent tous à la hutte de celui qui était, par logique, l'origine de leur malheur. Mais aussi surprenant soit-il, le voilà qui se tenait devant sa hutte, très calme, attendant avec évidence la sentence qui lui incombait. Les villageois, stupéfaits par la témérité de cet homme, le criblèrent d'insultes tant ils étaient incapables de porter le moindre coup à un homme qui, visiblement, ne semblait pas vouloir se défendre. La tension dans l'atmosphère monta à mesure que ceux-ci hurlaient, grognaient, crachaient leur rage au visage du coupable futurement supplicié. C'est alors que l'homme le plus fort du village sortit de la foule armé d'une hache pour mettre une fois pour toutes le condamné à terre. Mais alors qu'il s'approchait, le forgeron, d'un seul mouvement, mit à terre le colosse, le laissant gisant dans son propre sang. Aussitôt, la foule démente ne souffla plus un mot. Essayant de comprendre ce qui s'était passé, car observant le forgeron de plus près, ils remarquèrent qu'il avait sorti de nulle part un objet étrange et apeurant. Un objet long et manifestement couvert de sang. C'était la première épée. Profitant du silence ainsi obtenu, l'homme vociféra sa colère en hurlant à la foule. « Mais qu'avez-vous fait ? Je vous ai donné les outils pour alléger vos tâches, pour permettre à tous de travailler sans vous fatiguer. Mais profitant de cet avantage, vous êtes devenu arrogant. Vous avez voulu travailler plus et vous mettre en compétitivité, chacun dans votre coin. Oui, tous vos outils sont différents. Parce que vous êtes différents, même dans un même travail. » C'est parce que vous avez chacun une manière différente de le faire qui le rend si précieux. Sans cela, vous n'êtes que des automates et votre travail est sans valeur. Si nous travaillons ensemble, ce n'est pas pour accomplir plus de choses ni pour construire un plus grand bâtiment qui défiera le temps, mais pour faire quelque chose d'harmonieux. Au lieu de ça, eh bien, vous avez préféré choisir l'autre voie. Vous avez voulu faire plus et au nom de cela, vous avez fait couler le sang. Et avec les outils que je vous ai donnés. Je vous maudis tous, car jamais vous n'arriverez à enlever le sang de vos lames. Chaque fois que vous les laverez, le sang réapparaîtra. La lame, comme la connaissance, est neutre. C'est celui qui la porte qui ne l'est pas, qu'il en résulte le bien ou le mal. Les villageois se rendirent compte qu'en effet, les lames ne pouvaient être lavées et que chaque fois qu'ils passaient l'eau, l'acier suintait le sang. La malédiction du forgeron était réelle. Les outils finirent donc tous par rouiller. Alors que la première épée reflétait à perfection les yeux de celui qui la contemplait. Jamais on n'eût vu tel miroir. Un jour, le forgeron prit un apprenti pour transmettre son savoir. Il lui parla en ces termes. « Sache que le couteau reflète son propriétaire, dans le sens que celui-ci l'utilise. Mais il doit être un miroir au sens propre, non seulement pour que l'eau n'adhère pas et ne l'oxyde, mais aussi pour rappeler à son propriétaire que c'est son esprit qui doit être tel un miroir, refléter les actes d'autrui par le non-agir. » Ainsi, il mettra un terme à la violence. Et la dernière chose à savoir, mon apprenti, c'est que tu dois toujours avoir une longueur d'avance par rapport à celui à qui tu donnes la lame. Sinon, c'est lui qui t'anéantira. La morale de cette histoire est que la technologie a toujours un cran d'avance sur nous et qu'on ne peut la combattre avec ses propres armes. Si vous pensez que l'on ne combat pas un sabre avec un couteau, que pensez-vous faire avec votre ordi contre Microsoft ? C'est une image. Autrement dit, comment combattre un système avec les billes qu'il nous donne ? tout simplement en lui rendant, car il est inutile de s'en servir. L'alchimie est la science des éléments. La transformation du métal nous a toujours fascinés, c'est ce qui nous fascine le plus. Et les paroles du forgeron étaient bien vaines quand on sait combien de sang le fer a versé depuis. C'est pourquoi, s'exprimant en vers, l'alchimiste rappelle combien le fer est imprégné de haine par le sang qu'il a versé au fil des siècles. Et la malédiction du forgeron touchera donc tous ceux qui porteront la mort par les armes. Car, arrachés du fond de la terre, lourds de charge et de misère, en amont de notre sphère, ont abusé du fer. Ceux qui, attirés par son pouvoir, sont fiers du sang, fiers de la gloire, corrompront le métal du feu noir d'un geste lent de désespoir. D'un seul coup, percer la panse d'un inconnu de par ta lance, te condamnant bien à l'avance car ce fer-là cherche en vengeance, infligera mille peines, mille souffrances envers tous ceux de votre vengeance. Et à toi seul d'en assumer les conséquences si tes paroles sont comme fumée, si tu trahis ta vigilance, la lame s'est tout trouvée d'un monde immense et de celui qui l'a forgée. Qu'elle soit réelle, imaginaire, une arme est une arme. Qu'importe le poids du fer, qu'importe celui des larmes, à terme, c'est dans ton cœur qu'elle veut loger. Pour arrêter sa furie sanguinaire, gorgée de peur, pleine de colère, car aucun homme qu'elle ne peut tuer.
Shams, félicitations.
Ah oui, grave.
Merci.
Et merci beaucoup.
Voilà, c'est mignon, hein.
Je suis désolé, on avait prévu de te passer une petite musique, malheureusement on n'a pas du tout le temps. On va quand même laisser l'antenne à notre cher Fred pour qu'il nous explique que la musique n'est pas une religion. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, rendez-vous jeudi prochain à la même heure, sous réserve, et tous les jeudis soirs en live, voilà, si vous avez des bonnes idées à ramener, n'hésitez pas à vous faire connaître, on est motivés, on est là au cul de l'église, et on va pas y passer la nuit.
Ah non, soyez les bienvenus,
soyez les bienvenus,
et bonne soirée les gars.
Mollo sur le destroy. Hein.
Ouais, mollo.